C'est un territoire escarpé et montagneux à 1h30 de voiture de Nice. Des villages isolés, une seule route et une voie ferrée devenue le nouvel itinéraire emprunté par les migrants pour rejoindre la France.
Dans les Alpes-Maritimes, le patron c'est Éric Ciotti. Dans un tweet, il dénonce.
J'ai alerté le procureur sur les pratiques intolérables qui ont cours dans la Roya de la part de délinquants.
On va retrouver en duplex un homme qui est devenu un symbole de l'aide aux migrants en France. Bonsoir Cédric Héroux. Vous êtes agriculteur à Breil-sur-Roya, une soixantaine de kilomètres de Nice. Et on va parler avec vous de ce qu'on appelle le délit de solidarité. Alors c'est quoi ce délit ? C'est le fait de venir en aide à des personnes en situation irrégulière. C'est ce que vous faites, vous Cédric Héroux. Vous hébergez, vous soignez, parfois vous transportez des migrants bloqués à la frontière italienne.
Ceci n'est pas une émission, c'est une balade.
Ce sont des péripéties, c'est comme Platon le dit, il se balade pour avoir des conversations, et la conversation est aussi mobile que leur balade.
On a vu la vallée de la Roya. On est allé dans des lieux 10 fois visités, filmés. On a rencontré des personnes 100 fois interviewées. On a passé un peu de temps avec 2 hommes d'une même famille. La famille Héroux, Cédric et Morgane. Ils sont connus pour aider des personnes venues d'ailleurs, des migrants. Cédric est même en procès pour ça.
C'est qui t'a fait le torchis là pour isoler ?
C'est à fin, non, c'est...
J'ai pas fait le gaffe, je t'ai passé.
C'est qui déjà ?
Comment on peut t'aider ?
Tu vois, on a construit ça là,
fin de l'automne pour...
Pour avoir une petite une indépendance là, pour la bouffe et tout. Et en fait, ça s'est transformé avec le froid, ça s'est transformé en chambre. On a isolé un peu tout ça, tout ça avec de la récup. Hein. Trouver des bouts de bois à droite, on avait coupé des arbres parce que voilà, pas de thunes pour faire un truc propre. Du coup, il y a plein de gens qui ont ramené un peu d'isolant. C'est bien parce qu'il y a plein de gens qui sont venus, qui ont mis un peu la main à la pâte et du coup, qui ont arrangé. Tu vois, on avait mis même un évier, tout ça, tout de récupération.
Et là, il y a la place pour 3 personnes ?
Ouais, souvent, ils sont plutôt 4 ou 5, ils se serrent. Mais voilà, il y a 3 lits. Il y a 3 lits, après on a les caravanes. Ils arrivent jusqu'à 6 personnes par caravane. Et puis après, on a une grosse tente, là, il y a des gars de Calais qui nous ont ramené des tentes. Tous pour Calais, là, une asso, là, qui a ramené cette grosse tente là-bas, là, il y a à peu près 13 couchages. Parce que c'est quand même monté... Il y avait toujours eu ces 2 caravanes, donc 10aine de personnes logées ici. Puis il y a eu vraiment des gros arrivages à un moment donné, se passait tous le mot. On a été jusqu'à 50 ici. Et donc urgence, donc ça a été des petites tentes quechua à droite à gauche. Premier coup de vent, les tentes qui s'arrachent, inondées. Du coup, la cuisine a été transformée en urgence en chambre à coucher. Ils nous ont ramené cette grosse tente là, qui est pas mal. Et voilà, là c'est le coin du feu, là, parce qu'ils sont quand même frileux. Je suis pas habitué à cette température. Puis on vient tous manger ensemble là, ici.
Et toi, t'en as accueilli aussi chez toi ?
Ouais, j'en ai eu accueilli. Ouais, j'en ai eu. C'était 5 personnes que j'ai trouvées en bas de chez moi. Moi, c'est un peu plus au niveau logistique ici. Il y a le tracteur qui monte pour les dons, pour les couvertures, pour amener à manger. C'est un peu plus simple. Moi, il faut tout se trimballer sur le dos. Il y a un quart d'heure de marche. Donc voilà, un jour, j'ai trouvé 5 types sous une couverture, une seule couverture avec 1 cm de givre à côté de la rivière. Et j'ai dit, non, mais là, c'est pas possible. J'ai trouvé que c'était plein. J'ai dit, bon, allez, hop, on les monte à la maison. Et puis ça a commencé comme ça.
C'était quand ?
C'était début décembre. Début décembre. Et là, de 2016. Voilà.
Et en ce moment, il n'y a personne ?
Non, là, il n'y a plus personne. Là, ils bloquent tout. Il y a ces pseudo-déportations. Là, il n'y a plus personne dans les rues. Ils n'osent plus prendre la route. Ils ont peur d'être amenés dans le sud de l'Italie. Donc, ils restent cloîtrés dans les camps. Il n'y a plus personne qui monte là.
Tu me disais, ici dans la vallée, ça se passe comment pour les gens? T'as l'impression qu'il y a du soutien de votre action ou,
Ah oui, à fond. Et pas que dans la vallée, hein, partout en France, on reçoit beaucoup de dons, de lettres, de personnes qui sont touchées par ce qu'on fait et qui demandent comment ils peuvent aider par des dons de fringues, de nourriture, de l'argent aussi qui est reversé à Roya Citoyenne.
Ça aide pour continuer?
Bah, ça aide pour continuer, ouais, un petit peu, hein, mais ça devient compliqué, quoi. Il y a une grosse paranoïa des habitants, on n'ose plus, on a peur de s'arrêter maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ne s'arrêtent plus s'ils voient quelqu'un au bord de la route, ils ont peur que ça soit, qu'ils soient pris par la police alors qu'ils ont tout à fait le droit de venir en secours aux gens, quoi.
On est toujours dans la vallée de la Roya. Là, c'est Cédric Héroux qui parle.
Je ne vais pas me dire le nom, mais je t'explique après, je ne vais pas marquer le nom. Oui. Bonjour, l'actualité récente m'a fait découvrir ton action en faveur des migrants. Là, c'est écrit en plus avec un ordi, et après c'est écrit à la main. Je n'apprécie pas les cons qui déshonorent notre vallée de la Roya. Après, c'est réécrit à... Je ne sais pas pourquoi il a rajouté ça, d'ailleurs. Après, c'est réécrit à mode ordi. Tu te présentes comme agriculteur. Permets-moi de te demander comment tu concilies ton activité agricole avec ton aide aux clandestins. Moi, je suis gérant de société et je n'ai pas le temps d'à perdre avec des paris conneries. On nous parle souvent des difficultés rencontrées par les paysans et des nombreux suicides qui endeuillent leur monde. Un vrai paysan se lève très tôt et travaille dur jusqu'à tard dans la soirée. Pardon. Cela ne semble pas être ton cas, puisque tu trouves le temps d'aller chercher des gens qui, en fin de compte, sont des délinquants. Sympa. Quand on te voit, on pense à un anard ou un gauchiste qui doit cultiver le cannabis et le fumer, et ton air de dégénéré ne peut pas en ta faveur. Je prends ça comme un compliment. Personnellement, je mettrai à profit ma connaissance de la campagne pour repérer les migrants et les faire tomber dans quelques guet-apens, ou pour organiser avec mes voisins des battues en vue de les abattre comme des nuisibles. Je te souhaite d'être lourdement condamné et de retrouver dans une cellule avec plusieurs migrants à qui tu serviras de femme ou de chèvre avec ta barbe. Donc là en haut, c'est un gars, donc il y a son prénom, son nom et son adresse. Et donc j'ai cherché sur internet et puis je tombe sur un gars, peut-être 3-4 ans de moins que moi, et puis une tête de quelqu'un d'épanoui, tu vois, belle gueule et tout. Tu te dis, bon, tiens, c'est bizarre quoi, quand même. Et je trouve sur Facebook des amis à lui, etc. Je me fais ami avec eux, je leur demande son numéro de téléphone qu'il me donne. Et le gars, je l'appelle, je lui dis « Bonjour, monsieur Intel, c'est Cédric Héroux, l'appareil, j'ai reçu un courrier de votre part et tout. Je voudrais que vous me précisiez juste une phrase sur votre courrier. » Et puis je lui ai dit donc, « Et les faire tomber dans quelques guet-apens ou pour organiser avec mes voisins des battues en vue de les abattre comme des nuisibles. » Il fait comment ça, c'est une blague et tout. Et en fait, c'était pas lui. Ils ont pris, parce que ces fachos, ils ont tellement de couilles, excuse-moi l'expression, qu'ils ont pris le nom d'un gars de la brigue, sûrement très sympa, et pour qu'on aille faire une vendetta chez lui, ou je sais pas. En fait, c'est pas cette personne-là qui l'a écrite. Donc ils se servent d'autres noms, faire des lettres de menaces. C'est flippant, hein.
Ici, il y a eu une perquise la semaine dernière.
Ouais.
Tu peux me raconter?
Alors, on était en train de manger, et puis une copine là, qui est allée vendre les œufs sur Nice, qui croise deux camions de la gendarmerie montée, du coup, nous dit, de toute façon, je crois qu'il va y avoir la perquise. Nous, on s'attendait à une perquise simple, tranquille, avec trois enquêteurs, et puis là, on l'a vu arriver, on a regardé en bas, on a vu les casques bleus monter. Et pas ceux de l'ONU, ceux de la gendarmerie, qui sont arrivés en courant de partout. Il y en avait une bonne vingtaine, hein, avec une dizaine d'enquêteurs de la gendarmerie aussi. Et il y a le chien qui est venu, qui a vu ça, qui a flippé, qui a commencé à aboyer. Ils ont voulu essayer de l'abattre. On s'est jeté avec un copain dessus pour la protéger, la calmer surtout. Et ils m'ont repéré, ils m'ont dit, ah, tiens, lui, on le prend, à Lucille aussi, tac, tac. Et après, ils ont fait une perquis sans personne. Ils ont refusé que... Ils ont sorti l'infirmière. Il y avait une infirmière de Médecins du Monde qui était en train de soigner un gamin de 16 ans, qui se plaignait de gratouille, qui avait des petites plaies un peu de partout. Et donc, ils sont rentrés dans la maison. Moi, j'ai pas vu tout ça. C'est l'infirmière qui nous a raconté, arme à la main, et qu'on fait sortir l'infirmière, qu'on fait sortir le gamin, qu'on fait une perquis sans personne. Donc, on ne sait pas ce qu'ils sont restés à trois pendant 10 minutes dans la baraque. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas ce qu'ils ont pris. Et puis, en descendant le chemin là, pour être embarqué sur le menton, là, on a croisé le journaliste de Libé là, qui prenait des photos, qui était là avec, en fait, qui était avec nous là, pendant le repas, qui est parti parce qu'on lui avait dit qu'il y avait un gros contrôle à la frontière, un gros barrage avec barrière, vraiment la vallée bloquée. Donc, il a voulu prendre quelques images. Et puis, en fait, en descendant en bas, il a vu les casques bleus montés. Et du coup, il est resté en bas, il a voulu prendre des photos. Et moi, quand je suis passé me noter devant lui, ça ne leur a pas du tout plu qu'ils prennent des photos comme ça. Ils l'ont mis au sol, il a commencé à continuer avec un bras, avec son appareil au bout du bras, à prendre des photos en rafale. Puis là, il y a un deuxième garde mobile là, qui lui a sauté dessus. Là, ils ont fait manger la terre. Puis nous, on a continué, on est arrivé sur la route. Puis là, j'ai vu le journaliste qui revenait, donc il avait réussi à discuter un peu avec les enquêteurs. Parce que discuter avec les gardes mobiles... La gendarmerie mobile, c'est impossible. On ne dit rien, ils ne sont pas là pour discuter, ils sont là pour appliquer les ordres, et c'était arrêter tout le monde. Nous, ils nous mettent une pression à nous pour cette désobéissance civile qu'on fait. Désobéissance civile, en fait, moi je ne trouve pas qu'on fasse de la désobéissance civile, parce que héberger quelqu'un qui est en danger, c'est légal, c'est un devoir, plus qu'un droit, quoi. C'est vraiment un devoir, et mais voilà, ils voient que de voir plein de policiers, au début c'était quelques policiers, ça ne faisait pas trop peur, on comprenait quand même des risques, même si on savait qu'on allait peut-être passer par la case garde à vue. Et je pense que ça les inquiète, ouais, ça les inquiète beaucoup. De toute façon, je crois que c'est un devoir du citoyen, quand on voit qu'il y a des lois qui sont anti-démocratiques et anti-républicaines, il ne faut pas les appliquer, il faut dire non, il ne faut pas accepter ça, parce que d'accepter ça, ça fait avancer un peu ce pseudo-fascisme qui s'installe petit à petit en Europe.
En deux, trois mots, pour quelqu'un comme moi qui connaît pas trop la région et le coin d'ici, tu le décrirais comment, cette vallée? Tu la décrirais comment?
Un paradis. Un paradis qui est en train de vraiment se transformer en enfer. Mais ouais, un petit paradis. C'était un paradis, en tout cas. On peut bloquer les frontières, tout ça, ça va pas s'arrêter. Je veux dire, c'est pas parce qu'on met des frontières et des PPA de partout.
PPA, ça veut dire
que ces gens, ils vont arrêter de fuir leur pays, parce que s'ils ne fuient pas, ils meurent. Dans le Darfour, on les assassine. En Érythrée, c'est une dictature horrible. Je veux dire, on a beau mettre des frontières et des gendarmes et des officiers de la PAF de partout, ça ne les arrêtera pas. Ils continueront à monter, ils vont prendre de plus en plus de risques, et nous, on ne va pas pouvoir les laisser dehors, donc je ne sais pas.
Toi, ton action, tu la vois dans la continuité, quoi.
Ah ben moi, tant qu'il y aura des gens qui auront besoin d'aide, oui. Et qu'ils soient blancs, noirs, verts, rouges, oui. Je m'en fous de savoir s'ils ont des papiers, je m'en fous de savoir d'où ils viennent, je m'en fous de savoir s'ils sont musulmans, catholiques. C'est des gens qui sont dans la misère aux portes de chez moi. Je peux faire que ça, quoi. C'est un devoir, vraiment. Hein. Puis moi, je veux que mes enfants... quand je serai plus là, ou mes petits-enfants, ils soient fiers de ce que j'ai fait. Et qu'ils n'aient pas honte, comme on a eu honte de nos grands-parents qui ont été collaborateurs de Vichy, de Pétain et de tous ces gens-là. Parce qu'on dit, oui, mais c'est ce qui s'est passé il y a 70 ans, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est vrai. Mais ça y ressemble.
Et en général, les gens ici, ils restent de quelques jours à plusieurs mois pour certains.
Là, maintenant, c'est c'est de plus en plus long, hein, parce que ça passe, ils n'arrivent plus à passer, donc...
Donc ils restent ici.
Ouais, ils restent là, ouais.
Et en général, ils sont dans quel état d'esprit? Ils veulent partir à Paris, en Allemagne?
Complètement paumés. Ils sont partis de leur pays avec un but, et ils ne veulent pas en décrocher, ils veulent monter sur Paris. On a beau leur expliquer que Paris, c'est pas vraiment la meilleure des solutions, mais bon, voilà, c'est leur but. Et si on leur enlève ça, on leur coupe les jambes. Mais ils se rendent compte un petit peu, on leur montre des images des camps à Paris. Mais voilà, ils ont leurs contacts, ils ont leur famille, ils ont des frères et des sœurs qui ont une maison, qui sont accueillis, qui sont ou dans des camps. Enfin, c'est très difficile d'avoir vraiment des bonnes informations. Le dialogue, c'est un peu compliqué, ils parlent pas très bien anglais. Et puis on a l'impression qu'ils ont compris, on passe des infos, puis ils te disent oui, ils veulent pas dire. Ils veulent faire plaisir, donc du coup, et puis on se rend compte qu'ils n'ont pas compris. Mais c'est typiquement européen, hein. Je crois que, en tout cas français, européen, je ne sais pas comment ils pensent les Allemands, les Anglais, les Suédois et tout le reste, mais en tout cas en France, moi j'ai remarqué qu'on a plus souvent peur du plus pauvre que soi, que du plus riche. Et ça, c'est un sacré problème. Parce que j'ai entendu beaucoup, oui, mais ils vont nous voler notre pain, notre travail, oh, ils vont toucher le RSA. Et puis je leur dis, mais attends, ça te dérange qu'un mec comme ça, qui quitte sa famille, qui quitte son boulot, qui quitte son pays, tous ses amis, tous ses repères, tout ça, il vient dans un pays où il n'y a pas la même culture, qui ne parle pas la même langue, et tu crois qu'ils viennent pour 300 balles? Mais quand même, il faut arrêter. Mais ouais. Mais là, je crois que, ouais, il va falloir que les gens se réveillent un petit peu parce que ce qui est en train de se passer, c'est grave. C'est très grave. Moi, j'ai toujours cru être vu dans un pays, la France était le pays des droits de l'homme, de la demande d'asile, enfin, c'est un pays accueillant et tout ça. Et en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je veux que tout ça s'arrête et c'est en train de péter. Et il faut que ça pète, en fait. Il faut que les gens ils se retrouvent au pied du mur pour réaliser tout ça.
Il y a les demandes de prise en charge du dernier gamin, tu vois, qu'on envoie. Prise en charge éducative, qu'on envoie donc chez les gendarmes au parquet des mineurs. Donc requête aux fins d'assistance éducative. Là, hop. Donc tout ça, c'est tous les gamins à qui on a fait les demandes de requête. Notre tiroir magique. T'as toutes les prises en charge des gamins qu'on a fait passer légalement. Ça, c'est pas un stock, hein. Je sais pas combien il y en a là, mais. Donc le facteur.
Au moins une trentaine.
Ouais, on est à l'aise. Hein. Et le facteur, il doit halluciner, quoi, parce que c'est tout à mon adresse. Et il doit un peu halluciner, quoi. Et tu vois, et là, je suis en train de faire un. C'est un CAO, en fait, ici. C'est un CAO géré par un paysan qui est parti de l'école à 16 ans et qui n'a aucune formation pour faire du social, qui n'a aucune formation pour gérer les gamins. Et c'est ça qui est grave. Tu vois, ce qui est grave, il n'y a personne qui est venu voir ce que je faisais avec ces gosses, quoi. Tu vois, je pourrais être un tordu, je pourrais être n'importe qui c'est qui vient voir. Personne. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'on laisse faire n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, quoi. Et c'est un vrai racisme d'État, quoi. Parce que. Tu vois, le racisme, c'est, il y a deux racismes. Le racisme que je connaissais, moi, c'était la peur du rebeu qui te vole ton portefeuille, ou la peur du black qui te pète la gueule, ou tu vois, une espèce de peur, presque un sentiment d'infériorité par rapport à une race, en fait. Et là, c'est le sentiment de la supériorité, il est vachement plus tordu, c'est qu'on s'en rend plus compte, en fait. Et quand tu vois des flics qui montent ici, qui traînent des gamins par terre avec un flingue sur la tempe, ils ne feraient pas ça s'ils étaient blonds aux yeux bleus. Ça, c'est sûr. S'il y avait une gamine blonde aux yeux bleus, mais il n'aurait pas touché, c'est sûr, c'est évident, quoi. Et ils sont permis ça parce que les gamins étaient noirs. Et ils laissent des gamins en galère parce qu'ils sont noirs. Et c'est tout, quoi. Et c'est. On m'a même dit, c'est le commissaire de la PAF qui m'a dit ça un jour. Parce qu'en fait, on a fait une action qui s'était très mal déroulée. On est arrivé à une fête qui s'appelle la fête de la liberté avec une quarantaine de mineurs. Et pour manifester un peu le truc, on avait préparé un échappatoire. Les gendarmes ont dit non, ça va bien se passer, de toute façon on a passé le véhicule pour tout le monde, etc. Ça va bien se passer. En fait, le préfet a dit non, ça se passera pas bien du tout. Et puis il a fait venir 150 gardes mobiles et tout le monde s'est fait embarquer, quoi. Tout le monde s'est fait embarquer. Ils m'avaient promis que les mineurs allaient être pris en charge et puis ils n'ont pas été pris en charge du tout. Ils ont été tous renvoyés en Italie illégalement, quoi. Et le commissaire est venu me voir, il fait oh, alors Héro, tu fais ton malin, je te rappelle que t'es sous contrôle judiciaire. Je dis bon, ce que j'ai fait, c'est pas illégal. Hein. Et donc il m'a dit, ouais, mais de toute façon, t'as trouvé la faille avec tes mineurs et tout, mais ça marchera pas. De toute façon, j'ai dit, ouais, mais attends, les gamins, quand même, la plupart, c'est des gamins, quoi. Il m'a dit, ouais, c'est bon, avec ce qu'ils ont vécu, ils sont passés après.
Nos borders là qui étaient sur Vintimille et tout, donc attroupement, manifestation et tout ça. Et donc il y a ce vieux là qui arrive, 80 balais ou voire plus, et qui arrive et qui s'approche un peu de voir ce qui se passe et tout ça. Et puis t'as un carabinier ou un gars de la PAF, je sais plus exactement si c'était côté français ou côté italien, qui prend ce vieux là, et oh, pousse-toi. Et là le mec il remonte sa manche comme ça, il dit, tu crois, tu veux m'en refaire un deuxième de tatouage? Et j'ai trouvé ça, mais alors. Ça, c'est, mais c'est, et ce qui est en train de se passer, putain, il y a encore des résistants qui sont encore vivants. Putain, le moindre des choses, c'est qu'on fasse semblant au moins jusqu'à ce qu'ils partent, ces gens-là. Ces gens qui se sont battus, qui ont pris le maquis pour arrêter ce fascisme, cette traque aux juifs. Là, maintenant, bientôt, on va faire la traque aux musulmans, aux noirs. On attend au moins qu'ils soient partis, ces gens-là, pour faire ça. Au moins par respect pour ces gens qui se sont battus, qui ont tout perdu. Leur famille, leur truc. Ces gens-là, ils étaient hors la loi, comme nous, aujourd'hui, on est hors la loi. Ces gens-là, ils étaient traités de terroristes par le gouvernement français, hein, de Vichy. Hein. Il y a des similitudes, mais c'est flippant. Hein.
Vous êtes pas loin.
Ben nous, on est traités comme des passeurs professionnels, des gauchos extrémistes.
Des fumeurs de
joint. Des fumeurs de joint. N'importe quoi. 20 ans que je peux tuer un tien. Sur un pétard, en plus. Bande de cons. Non, mais...
Merci à Morgane et Cédric Héroux, deux frères agriculteurs de la vallée de la Roya. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce reportage en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com.